Alors ce matin, je voudrais juste continuer sur ma série sur la vulnérabilité. Je pense que vous vous rappelez le dernier message que j'avais fait sur ce thème-là. On avait vu que sans la grâce de Dieu, eh bien, on ne pouvait pas se sortir, et on a entendu ce matin des témoignages, se sortir de cet enfermement à cause du péché, cette aliénation. Et ça nous parle de la vulnérabilité que nous avons en nous, que nous portons en nous en tant que créatures déchues, sans la grâce de Dieu. Et ce matin, je voudrais aborder un autre aspect de ce thème-là. En tant que croyants, comment vivons-nous notre vulnérabilité, c'est-à-dire nos limites, nos difficultés, nos approximations, nos doutes, nos chutes, nos relèvements aussi, mais certes. Mais enfin, comment nous vivons cette faiblesse qui nous habite? Comment nous la vivons? Est-ce que nous sommes désespérés, pessimistes, fatalistes, ou au contraire triomphalistes? Non, rien ne peut m'arriver. Voilà. Donc comment, en tant que croyants, comment vivons-nous cette vulnérabilité? Pour cela, je voudrais lire un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 7 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 18. Donc dans la traduction Nouvelle Français Courant. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes constamment exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. L'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu qui aura fait multiplier les prières de reconnaissance se répandra encore davantage pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère, légère. Mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, son pesant de gloire. Car nous portons notre attention, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Quel beau passage, dur. Il faut le reconnaître, plein de réalisme, plein de lucidité de la part de l'apôtre Paul. En fait, ce passage nous décrit les différentes difficultés, les oppositions que l'apôtre Paul a pu rencontrer tout au long de son ministère et comment il les a vécues, appréhendées, voire sublimées. Et qu'est-ce qu'il en a déduit aussi dans sa compréhension de Dieu et de la vie spirituelle. Alors ce texte est en partie un texte autobiographique, c'est rare, on n'en a pas 36 000 des textes où Paul parle de ce qu'il a vécu, de lui. Et on voit bien que Paul a conscience de ses propres limites aussi. Il ne fait pas que décrire les oppositions, ce qu'il a vécu. En parlant de ces oppositions, il parle aussi de ses limites. Ainsi, au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, des vases d'argile, suivant les traductions. Des vases de terre. Il a aussi conscience des limites que nous impose la vie humaine sur terre. Versets 8 à 11, nous sommes pressés dans la détresse, persécutés, abandonnés, abattus, sans cesse livrés à la mort. Alors c'est vrai que ces oppositions décrites ici par l'apôtre Paul relèvent des attaques spécifiques liées à son ministère d'évangéliste par rapport à ses détracteurs, certainement des judaïsants, des gens qui voulaient revenir à la loi et qui s'opposaient au message de la grâce de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que ces oppositions, ces difficultés, eh bien tout chrétien peut les rencontrer dans sa vie. Donc ici, la vulnérabilité en question touche aux limites de notre capacité de résistance mentale et physique face aux oppositions spirituelles, que ce soit en tant que chrétien engagé publiquement dans un ministère reconnu dans l'Église, qu'on soit pasteur ou évangéliste ou missionnaire, mais aussi en tant que responsable d'œuvres chrétiennes, engagé dans un mouvement social à caractère chrétien, tout simplement dans notre vie chrétienne, quand on veut témoigner, bien, parfois même au sein de notre propre famille, si l'on a affaire à des gens qui s'opposent à nous, bien on peut effectivement vivre aussi ces difficultés, ces tristesses, ces angoisses. En tout cas, en tant que chrétien, dès lors que nous cherchons à vivre fidèlement notre foi, nous allons devoir, frères et sœurs, faire face à de telles oppositions et donc être dans un même temps confrontés à notre vulnérabilité, c'est-à-dire à nos propres limites. Et comme nous portons ce trésor dans des vases de terre, eh bien nous souffrons, nous sommes pressés, comme l'apôtre Paul, abattu, peut-être même trahi. Et notre vulnérabilité est mise à rude épreuve, d'autant plus que nous sommes des vases de terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le dit ce texte, d'argile. Et alors nous ressentons combien nous sommes limités, combien nous sommes limités psychologiquement, physiquement, spirituellement. D'ailleurs, dans ce texte, au chapitre 5, le chapitre suivant, on voit Paul qui parle de son corps, enfin de sa vie terrestre, comme d'une tente qu'il va bientôt abandonner, et même il dit qu'il lui tarde de rejoindre le Seigneur. Il arrive couramment, quand nous témoignons de notre foi, que ce soit dans le cadre du travail, ou dans d'autres contextes, que l'on se moque de nous, qu'on nous snobe, ou pire, qu'on nous mette de côté au placard ou qu'on nous ostracise. Et dans certains pays, on sait que ces oppositions vont jusqu'aux menaces, voire jusqu'à toucher l'intégrité physique des personnes. Ceci nous montre encore une fois qu'en tant que vase de terre, nous sommes fragiles. Fragiles, soumis aux aléas des temps et en définitive inscrits dans l'histoire des hommes. Histoire qui peut nous plonger pour les personnes qui vivent par exemple dans des pays en guerre, comme en Ukraine, les chrétiens qui sont là-bas, dans un état d'angoisse où l'on doit fuir son propre pays, sa région, pour échapper à l'histoire, parce que nous sommes, en fait, difficile d'y échapper, nous sommes des êtres incarnés, des êtres, j'allais dire, de la terre. Il n'y a là, de ma part, rassurez-vous, aucun fatalisme, mais reconnaissons que personne ne peut être insensible aux moqueries, aux injustices, aux persécutions. Et de nos jours, avec la diffusion des informations sur les réseaux sociaux, il est très facile d'être victime d'un lynchage médiatique, parfois à base de fake news. Et alors, comme nous portons ce trésor dans des vases de terre et qu'on n'est pas fait de métal ou des purs esprits, mais des vases d'argile, eh bien, nous souffrons. Pour revenir au début de notre texte, au verset 7, il est question d'un trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quel est ce trésor ? Quel est ce trésor ? trésor en question, c'est bien sûr l'Évangile. Plus précisément, le message de l'Évangile pour lequel l'apôtre Paul, lui, a reçu un mandat de Dieu pour le proclamer, pour l'enseigner, pour le diffuser. À son époque, c'était dans tout le bassin méditerranéen, pratiquement, auprès des non-juifs, essentiellement. Et d'ailleurs, dans ce chapitre-là, quelques versets avant, il dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, pour que cette lumière, la lumière de l'Évangile, brille du sein des ténèbres. » Brille du sein des ténèbres. Oui, vous avez bien entendu, du sein des ténèbres. Et donc, c'est du sein des ténèbres que cet évangile est annoncé et surtout vécu. Pour l'apôtre Paul, les ténèbres auxquelles il était confronté, lui, elles étaient, entre autres, celles de l'opposition des Juifs au message de l'évangile, de la grâce de Dieu, opposition, donc, parce que, effectivement, Paul allait à contre-courant de la religion ambiante et même du paganisme. Ces oppositions qui pouvaient aller parfois jusqu'au lynchage physique, vous savez que plus loin au chapitre 6 de cette deuxième épître, Paul raconte tout ce qu'il a pu vivre, toutes ces oppositions, même une lapidation, des coups, etc. Il est décrit donc au verset que nous avons lu dans les versets 8 à 11. Mais je voudrais vous faire remarquer que chaque fois qu'il parle de ces oppositions, il y a une contrepartie. Chaque fois qu'il fait cette description de ces oppositions, il souligne en même temps le secours de Dieu, pressé, mais pas anéanti, au verset 8. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Persécuté, mais pas abandonné. Abattu, mais pas perdu. Le nom de Jésus dans son corps, il dit qu'il porte le nom de Jésus. Il y a la mort de Jésus, effectivement, parce qu'il souffre à cause de son message, mais il y a aussi, comme il porte le nom de Jésus, la vie du Jésus ressuscité dans son corps. Ici, il faut comprendre les fameux stigmates, c'est-à-dire les marques des coups qu'il a reçus à cause de ses persécutions. On pourrait dire « touché mais pas coulé ». Bon, ça, il ne le dit pas, mais c'est un peu ça. Pourquoi l'apôtre Paul nous dresse-t-il cette longue liste? Dans le but de se plaindre? Est-ce que c'est dans le but qu'on s'apitoie sur son sort ou pour nous faire peur? Pour régler ses comptes avec ses détracteurs? Pas du tout. Paul veut tout simplement témoigner qu'au sein même de ses oppositions, la vie de Jésus est toujours présente. C'est le verset 11. Hein. La vie de Jésus est toujours présente et qu'elle se manifeste, y compris dans notre chair mortelle. Nos limites, donc notre vulnérabilité, ne nous empêchent pas d'expérimenter la vie du ressuscité. La puissance du Saint-Esprit, elle est toujours à l'œuvre et elle le sera jusqu'à notre dernier souffle. Même dans un être souffrant de la maladie d'Alzheimer, l'Esprit de Dieu est toujours là pour vivifier, pour fortifier, pour encourager. Ce long passage, qui aurait pu être une sorte de plainte aux accents doloristes, eh bien, se conclut au verset 12. « Ainsi la mort agit en nous et la vie aussi agit en nous. » Donc on voit lucidité, mais sans apitoiement. La mort agit en nous, oui. La mort dont il s'agit ici, c'est avant tout celle bien des atteintes, des oppositions injustes que Paul peut souffrir. Bien, nous aussi, nous pouvons vivre cette sorte de mort parce que nous y sommes sensibilisés, parce que nous sommes tout simplement des vases de terre, et cela, nous ne pourrons jamais y échapper. Sauf que vient de suite après cette expression, la vie aussi agit en nous. Donc, lucidité dans la souffrance, il n'est pas question d'être dans le déni, mais aussi force et espérance, sans présomption ni triomphalisme. La vie agit aussi en nous. Dès maintenant, la vie du ressuscité agit en nous au sein de cette mort, c'est-à-dire dans cette chair mortelle dans laquelle nous éprouvons bien souvent notre vulnérabilité, eh bien, la vie du ressuscité est là pour nous relever, pour nous donner du courage. Donc, pas de résignation, mais la foi et l'espérance. Et puis, au verset 13 et 15, Paul nous montre que c'est à cause de notre vulnérabilité que nous pouvons proclamer la vie en Jésus-Christ, notre foi dans le ressuscité, parce que nous dépendons justement de la grâce de Dieu. Ces versets développent la notion de vie en Jésus-Christ. Notre foi dans le ressuscité a pour but, eh bien, de nous donner du courage pour proclamer la vie du ressuscité, le proclamer ici, dans le culte chrétien, mais aussi à l'extérieur, dans notre vie quotidienne. Proclamer la puissance de la grâce de Dieu qui nous donne la joie au sein même des ténèbres. Il dit au verset 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Bien, nous aussi, nous croyons. Raison pour laquelle nous parlons, nous prenons courage. Au verset 15, le témoignage, Paul souligne le témoignage de fidélité et de persévérance qu'il a maintenu tout au long de son ministère, au sein même de ses limites, au sein même de sa propre vulnérabilité. Et ainsi, la grâce de Dieu s'est manifestée en lui. Il dit d'ailleurs ailleurs, dans un autre passage, « Ma grâce te suffit, hein, car la puissance de Dieu s'accomplit dans sa faiblesse. » Et ainsi, il peut édifier les croyants de l'église de Corinthe. Et bien souvent, c'est ce qui se passe. J'ai souvent entendu des témoignages de chrétiens qui vivaient des choses très difficiles et qui, par la paix qui les habitait, avaient eu un impact vraiment spirituel étonnant dans leur entourage. Alors, je voudrais simplement conclure ce message par ces versets, les versets 16 et 18, et par cet encouragement que nous avons dans ce texte. C'est pourquoi, étonnant après tout ce qu'il a dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, parce que la grâce de Dieu, justement, elle est là. Et dans ces trois versets, versets 16 à 18, l'apôtre élève son âme vers les réalités célestes et invisible. Le « nous ne perdons pas courage » montre bien que l'action et l'engagement ici-bas sont toujours présents. Et il n'est pas question de se projeter, vous savez, c'est la fameuse théorie de Nietzsche, la religion est l'opium du peuple, donc autrement dit, elle permettrait de finalement accepter la souffrance et d'être dans la résignation. Ce n'est pas de ça que l'apôtre parle ici dans les versets 16 à 18. Ce « nous ne perdons pas courage » montre bien que l'action donc, et l'engagement ici-bas sont toujours présents dans la pensée de l'apôtre. Cette dernière expression revient d'ailleurs au début du chapitre 4 et au verset 1. Il dit ceci, « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Nous ne nous endormons pas, frères et sœurs, dans un rêve, dans un voyage mystique ou dans le déni. Non, nous sommes pleinement engagés avec la grâce de Dieu qui nous propulse pour aller de l'avant. Un autre élément qui montre que l'apôtre n'occulte pas la réalité des afflictions présentes, c'est que l'engagement à suivre le Seigneur, au sein de ses propres faiblesses, il dit qu'elle produit pour nous, que la grâce de Dieu produit pour nous, dès maintenant, un poids éternel de gloire, son pesant de gloire, comme le traduit la Nouvelle Française Courante. Alors, il ne faudrait pas penser que l'expression « les légères afflictions du moment », quand on vient de lire ce qu'il a dit avant, serait une façon de nier la réalité des misères, des souffrances et des persécutions en tout genre qu'il subissait ou que subissent encore certains chrétiens, certains croyants dans certains pays. C'est une tournure littéraire dont le but est de mettre en avant la différence qui est sans commune mesure entre ce que nous vivons et la gloire qui viendra. Deux situations, deux états, pour bien montrer vraiment que la gloire de Dieu surpasse toutes ces choses. Et d'ailleurs, il le dit dans un autre texte en Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors, il est vrai que le texte parle de choses invisibles, mais en réalité, si elles sont invisibles, ce n'est pas parce qu'elles n'existent pas. ou qu'elle serait une utopie ou une construction de l'esprit. Christ est bien ressuscité, c'est bien son esprit qui est en nous et par lequel nous vivons dès aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que son esprit, l'esprit du ressuscité, est en nous. Alors, frères et sœurs, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Le Seigneur est avec nous. Son esprit est avec nous. Et il vous conduira dans ses sûres mains, par ses sûres mains, dans le chemin qu'il a pour vous. Nous ne perdons pas courage. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à la prière.